Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez transformés par la puissance de la parole de Dieu.
Merci Seigneur. Amen. On peut se saluer les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Prenez de nouvelles. Demandez aux voisins, à la voisine, comment ça va. Comment s'est passée la journée. Alors, pour notre rappel, nous avons commencé à parler du ministère de Jésus-Christ, 2 points, 3 ans, 3 visages ou 3 faces, n'est-ce pas? Alors, nous avons lu 3 passages la fois dernière. Ces 3 passages nous ont aidé à introduire ces 3 visages. Mais ce soir, nous allons relire seulement un seul passage, Marc au chapitre 1er, verset 21 au verset 28, et puis le verset 32 au verset 34. Marc, plutôt, chapitre 1er. 21 à 28 et puis 32 à 34. La séance dernière, après avoir fait la très longue introduction, nous avons commencé à parler de l'année de la gloire. L'année de la gloire, et nous avons dit que cette année était faite de quelques mois, entre 11 et 12 mois. Et nous avons, sommes allés plus loin pour dire aussi que celui qui autrefois passait inaperçu commençait à exercer un effet d'attraction sur les autres, principalement sur les masses. Nous avons dit aussi que les échos, et nous avons dit aussi qu'on les comparait aux autres et on les trouvait spéciales, pour ne pas dire meilleures. Et à cause de cela, quelque chose s'attachait à lui qui était devenu une nourriture dans le sens de définir la gloire. Qu'est-ce qu'était la gloire? Et nous avons pris 2 directions. Nous avons dit d'abord, la gloire était définissable sur un plan général. Il y a 2 mots qui nous aidaient à définir la gloire. Doxa, un mot tiré du grec, et le mot kabod, tiré de l'hébreu ou de l'araméen. Et ces 2 mots avaient 3 significations principalement. Le plan, 2 mots qui nous aidaient à définir la gloire. Doxa, un mot tiré du grec, et le mot kabod, tiré de l'hébreu ou de l'araméen. Et ces 2 mots avaient 3 significations principalement. Ça voulait dire parure ou ornement qui donne un éclat. Deuxièmement, rayonnement qui se dégage d'une personne, qui rend cette personne différente et même supérieure aux yeux des autres. Et puis enfin, nous avons dit que doxa et kabod cachaient l'idée du poids, la valeur d'une personne. Et nous sommes allés et nous avons commencé à parler des principes attachés à la gloire. C'est quasiment vers ce niveau-là que nous nous sommes arrêtés, parce que je sais que les principes, on les avait abordés un peu rapidement vers la fin. Et les tout premiers principes que nous avons abordés, nous avons dit que la gloire était une chose normale. Normale lorsqu'on était dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire lorsque l'on faisait ce que Dieu voulait, comme il voulait, la gloire finissait toujours par s'inviter. Et nous avons mentionné 1 Roi chapitre 8. Versets 10 à 11, en parlant du temple de Salomon, quand Dieu a vu que tout était fait comme il voulait, sa gloire s'est automatiquement invitée. Deuxième principe que nous avons vu que la gloire était une réalité neutre. 2 choses. Et premièrement, augmenter. Et deuxièmement, comment on la gérait. En elle-même, elle n'est pas une mauvaise chose. Ce qui fait que certaines personnes, quelquefois, ont peur de la gloire. Et là, nous avons juste mentionné ce passage aujourd'hui, de lire avec Job au chapitre 1er, verset 3, ainsi que le verset 8e. C'est un moral. Verset 3. Job possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, pour ne pas dire qu'il y en avait 1000, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et le verset 7. Et cet homme considérable. Les fils de l'homme. La version, il était le plus important de tous les habitants de l'Orient. La version Nouvelle Bible et Seconde dit, il était la notabilité, un homme important. Nous verrons tout à l'heure en lisant quelques autres passages comment était la vie de Job, et nous allons comprendre pourquoi la Bible dit qu'il était l'une des personnalités les plus importantes. Mais malgré cela, le verset 8 nous parle du témoignage. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bizarre. D'un côté, il est présenté comme étant la personnalité la plus importante, un homme qui a beaucoup de bien entre ses mains. Mais de l'autre côté, on voit que cet homme, malgré tout ce qu'il a comme poids social, malgré tout ce qu'il a comme valeur aux yeux des autres, il est intègre, il craint Dieu, il sait gérer la gloire, il sait gérer toute cette grandeur. Je voudrais aussi ajouter Jean chapitre 13, verset 6 et puis verset 12 à 16. Jésus décide de laver les pieds de ses disciples et la Bible nous parle d'abord de la réaction de Pierre. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Qu'est-ce que Pierre veut dire? Vu ton rang, tu ne peux pas le faire. Vu ta position, tu ne peux pas le faire. Pierre est presque choqué. Il veut dire, tu ne peux pas te rabaisser aussi bas. Glorieux, c'est lui qui a créé cieux et terre. Mais il est prêt à se rabaisser jusqu'à ce point. Verset 12 à 16. Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ce qui veut dire, si celui qui vous envoie fait ça, à combien plus forte raison vous-même aussi. Troisième principe, nous avons dit que la gloire était un révélateur. La gloire était un révélateur. C'est-à-dire la gloire faisait ressortir ce que nous sommes réellement. Que les autres, et même des fois, nous-mêmes nous ignorons. Il arrive que nous ayons des traits, des caractères, nous ayons des tares ou des qualités enfouies, cachées, mais que nous ne voyons pas, mais que la gloire révèle réellement. Et si vous vous souvenez bien, j'ai mentionné cette phrase qu'un homme de Dieu a dit un jour, il faut donner le pouvoir, l'autorité ou l'argent à quelqu'un pour connaître sa vraie nature. Il faut donner le pouvoir, il faut donner l'autorité, il faut donner la position, il faut donner plusieurs choses à quelqu'un pour voir ce que cette personne est réellement. Il arrive quelquefois, nous donnons l'impression d'avoir plein de vertus, plein de qualités, simplement parce que nous n'avons pas atteint un certain seuil, simplement parce que nous n'avons pas été exposés à certaines choses. Et quatrième principe, nous avons dit que la gloire entraînait trois changements, principalement en termes de regard. Le premier changement, c'était le regard des autres vis-à-vis de nous. Ils nous regardent différemment, nous accordent plus de poids, nous accordent plus de valeur. Souvenez-vous, nous avons lu Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12, quand l'apôtre Pierre ainsi que Jean ont accompli ces miracles par la grâce de Dieu, mais ils ont senti qu'il y avait un changement dans le regard des autres. La Bible dit, Pierre voyant cela, et le verset d'avant dit, on les regardait avec étonnement, dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre force que nous avons pu faire cette chose? La gloire, elle change le regard des autres vis-à-vis de nous. Deuxièmement, la gloire change notre regard vis-à-vis de nous-mêmes. Et la plupart des fois, notre regard vis-à-vis de nous-mêmes est souvent attaché au regard des autres qui change vis-à-vis de nous. Et là, c'est l'orgueil qui s'invite, c'est la suffisance. Acte 5, 36, nous avons parlé de Théudas. Sûrement, quand il était seul, il ne se prenait pas pour un homme aussi important. Mais la Bible montre que quand 400 hommes se sont joints à lui, il se prenait pour quelqu'un. D'autres versions disent qu'il se prenait pour quelque chose. Simplement parce que celui qui était un soliste a désormais une foule derrière. Combien quelquefois, quand les gens nous suivent, quand nous faisons ce que nous faisons, fait que les gens sont derrière nous, il est possible que si nous ne sommes pas forts, nous-mêmes commençons à nous prendre trop au sérieux. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 à 10, nous parle aussi d'un homme que l'on regardait spécialement, hein, là où Philippe est allé pour faire un travail de réveil. Il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon, qui s'est donné pour un personnage. Alfred Kennedy, il se disait quelqu'un. C'est pas qu'on disait, lui-même se disait quelqu'un. Il exerçait la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. avait dit tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. À force d'entendre ça, quand il faisait des choses, les gens disaient, celui-ci est vraiment la puissance qu'on appelle la grande. Lui-même, il a commencé à se prendre pour quelqu'un de si important. Et puis enfin, troisième façon, nous avons dit que c'est notre regard qui changeait vis-à-vis des autres et qui s'accompagnait de l'arrogance et du mépris. Donc il y a d'un côté un sentiment de suffisance, mais aussi on commence à regarder les autres avec dédain. Que c'est triste de voir un humain mépriser et dédaigner les autres. Dans Luc, au chapitre 18, versets 10 à 11, la Bible nous parle de ces deux hommes qui sont montés au temple, un publicain ainsi qu'un pharisien, pour prier. La Bible dit que les publicains avaient la tête baissée. Ils n'osaient même pas lever la tête. Mais les pharisiens avaient un autre regard. La Bible dit, les pharisiens debout priaient ainsi. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains, mépris des autres. » La gloire, quand elle n'est pas bien gérée, elle amène le mépris des autres, parce que notre regard vis-à-vis des autres change. Nous estimons que nous sommes trop hauts et nous regardons les autres d'en haut et nous les plaçons en bas. Cinquième principe, et je pense que c'est là où on va continuer aujourd'hui. L'une des meilleures prières à faire en rapport avec la gloire est double. La meilleure prière à faire en rapport avec la gloire est double. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, la première prière à faire en rapport avec la gloire, c'est que Dieu puisse nous l'accorder, mais à un degré que nous pouvons supporter. Donne-moi la gloire, mais donne-la-moi à un degré que je peux supporter. De la même manière, on peut s'imaginer un petit garçon qui pèse 10 kilos, si vous lui faites porter 50 kilos, il va s'écraser. Simplement parce que le poids qu'on lui donne est plus fort. Et la gloire, quelquefois, n'est pas supportable à certaines personnes. Dans Matthieu, chapitre 25, au verset 15, la Bible nous relate une certaine inégalité dans la répartition des talents ou dans la répartition des richesses. À l'un, il est donné 5 talents, à un autre, 2, et puis à un troisième, 1 seul. Mais j'aime beaucoup ce que la Bible dit, à chacun selon ses capacités. Alors, quelquefois, nous trouvons Dieu injuste. Seigneur, moi, je te demande de guérir les malades. Pourquoi tu ne me permets pas que je guérisse? Dieu sait qu'il y a un qui peut gérer cela. Beaucoup de charisme, parole de connaissance, capacité à avoir des choses à apporter les surnaturels sans que cela puisse l'affecter négativement. Mais il sait qu'il y a aussi quelqu'un d'autre, si lui donne juste un peu, il est père. À chacun selon ses capacités. Et j'aime bien ce que la version parole vivante ou Alfred Kouané dit. Il dit en tenant compte de la capacité de chacun à gérer. Il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2, à un troisième 1 seul, Alfred Quindy, en tenant compte des capacités personnelles et la prière, Seigneur, donne-moi ce que je peux supporter, donne-moi ce que je peux tenir, donne-moi ce qui peut ne pas m'écraser. Seigneur, qu'est-ce donc? $1 million, qu'est-ce donc? L'or et l'argent t'appartient. Dieu regarde et dit, les petits là, son niveau, c'est $1,000. Si j'ajoute simplement un zéro, c'est une manière de ne pas l'aimer, je vais le perdre. Tu fais des prières sincères, mais Dieu aussi sincèrement, il ne te donne pas. J'ai donné cet exemple à plusieurs reprises. Si elle est là, je sais qu'elle ne sera pas choquée. Notre première fille avait peut-être à peine 18 mois, très petite. Et j'essayais de m'exercer avec un véhicule, une Renault 24 que j'avais à l'époque, et j'ai quitté avec elle l'UPEN, et nous descendions à ma campagne où nous habitions. Moi, j'étais du côté du chauffeur, et elle de l'autre côté. Et arrivé sur la descente, s'ils connaissent un peu l'UPEN, au niveau des colonels Wenzel, sincèrement, elle a levé la tête et dit, « Papa, donne-moi le volant, je vais nous conduire. » Et je puis vous assurer, quand elle demandait ça, elle croyait sincèrement que si je lui laissais le volant aussi, elle allait nous conduire. J'ai dit, non, Eunice, je ne te laisse pas le volant. J'ai vu, c'est roulé, papa, tu ne m'aimes pas. J'ai dit, je t'aime trop pour te laisser le volant. Donc, elle pensait que le fait que je ne répondais pas, je ne l'aimais pas. Mais si je la laissais, nous allons nous cogner contre un arbre. Et elle et moi, nous allons nous prêter. Combien de fois nous faisons des prières sincères? Zambena sekwi sabawa, Dieu dit les petits ici là. C'est celui-là. Simplement deux paroles de connaissance qui ont marché, la démarche a changé à l'église. Vous l'appelez frère, il dit non, révérend. Et Dieu dit à ce niveau déjà ça change comme ça. Et s'il ressuscite un mort, il commencera à s'asseoir et dit bah, vieux dalo, bah, vieux gaou, bah, si là, vous ne pouvez pas si kaya. Le vieux prophète, oh, rejeté, bah, Saül, on a basé au théâtre. On va vous faire chômer, bah, David. Que Dieu nous l'accorde à un degré que nous pouvons supporter. Mais deuxième prière aussi à faire, que Dieu nous l'accorde pas trop tôt. Que Dieu nous l'accorde pas trop tôt. Que Dieu nous l'accorde au temps convenable. J'aime quand 1 Pierre chapitre 5 verset 6 dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Que des gens qui cherchent à provoquer une élévation alors que Dieu ne l'a pas provoquée. Ils veulent exister médiatiquement. Il faut faire des affiches partout, papa. Il faut faire ma casse dans les médias. Il faut le rendre à la télévision. Partout où il est. Comme disait quelqu'un, il a vu des gens qui existent sur les médias, mais vous allez dans leur église, ce n'est pas une église, c'est une églisette. Mais médiatiquement, beaucoup de bruit pour rien. Mais entre-temps, il y a certains qui ne font pas de bruit et qui travaillent efficacement. Il y a un aîné que peut-être plusieurs ne connaissent pas, Alpha Lushima. Je le vois rarement à la télévision. Mais un homme qui fait un travail fort. Allez du côté d'Engil, vous allez voir son église. Et il a plus de, d'après ce que j'ai appris, plus de 45 d'autres églises. Et sans compter ce qu'il a en Europe. Et on n'entend pas parler de lui. Si on vous dit à Kinshasa, entre guillemets, selon qu'on appelle les grands personnes, c'est, qui ne connaît pas Alpha Lushima, s'élève la main. Plusieurs. Mais un homme fort. Un homme qui fait un travail merveilleux. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ne provoquez pas l'élévation. Laissez Dieu faire cela. Il y a une belle prière que le psalmiste fait plutôt que le sage fait. Au départ, quand j'étais nouveau converti, j'ai lu ce passage. J'étais choqué. Je disais, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Mais en grandissant, j'ai compris plutôt ce qu'il a voulu dire. Proverbe 30, versets 7 à 8. Un merveilleux passage que j'ai découvert en 85 et qui depuis lors m'a jamais marqué. Il dit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. En fait, il veut dire, ne me donne ni pauvreté exagérée, ni richesse exagérée. Mais j'aime ce qu'il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Une autre version dit, accorde-moi ce qui me suffit. Accorde-moi ce que je peux gérer. Et il montre les deux pièges, au verset 9, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Accorde-moi ce qui m'est nécessaire. Accorde-moi ce qui me suffit. Seigneur, malgré ce que je te demande, toi tu me connais. Donne-moi ce que je peux supporter. Donne-les-moi quand tu estimes que je peux les supporter. Si tu penses que je ne peux pas, ne me donne pas encore. Sixième principe. Il y a quatre choses ou quatre raisons qui empêchent la plupart d'entre nous de bien gérer la gloire. Quatre choses ou quatre raisons qui empêchent la plupart d'entre nous de bien gérer la gloire. La première raison, c'est l'absence des modèles qui ont bien géré la gloire. Ne pas avoir été exposé à un homme, à une femme qui a géré la gloire, qui a connu la gloire et qui l'a bien gérée. Il arrive que certains d'entre nous connaissent la gloire, mais n'arrivent pas à la gérer. Ce n'est pas leur faute parce qu'ils n'ont pas été en contact avec quelqu'un qui a expérimenté cela et qui est resté simple. Je l'ai dit souvent, je ne dirai jamais assez merci au Seigneur de m'avoir placé à côté de cet homme, le feu Jacques-André Vernon. Un homme puissamment utilisé par Dieu, un homme élevé, un homme qui pesait dans la société, mais un homme d'une très grande simplicité. Très, très, très grande simplicité. Donc l'absence de modèle, c'est-à-dire ne pas avoir eu devant ses yeux un modèle, une référence et un exemple dans la gestion de la gloire. C'est pourquoi certains, quand ils n'arrivent pas à gérer la gloire, je ne les blâme pas trop. Je dis, ils n'ont pas été exposés à un modèle. Ils n'ont pas été exposés à un exemple. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10, Paul responsabilise Timothée. Écoutez ce qu'il dit. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions et ma constance. Que des gens qui n'ont pas eu le privilège comme Timothée d'avoir été exposé à un modèle. Mais j'aime bien la façon dont Alfred Quinn, aux paroles vivantes, traduit les mêmes versets. Écoutez ce qu'Alfred Quinn dit. Tu m'as accompagné pas à pas. Tu as écouté mon enseignement. Tu as observé mon comportement et tu en as fait ta ligne de conduite. La ligne de conduite que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as observé quelqu'un. Tu as vu quelqu'un agir. Et il ajoute encore, tu t'es appliqué à me suivre même dans mes conceptions de la vie. On a été à côté d'un leader qui, quand il marche, il doit toujours avoir des gardes du corps. Un qui tient son sac, un autre qui tient son stylo. Et plus tard, quand on est élevé, ce n'est pas étonnant qu'on fasse la même chose. Mais quand on a été exposé à quelqu'un qui est d'une grande humilité, presque de manière contagieuse, vous commencez aussi à faire la même chose. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus-Christ parle à ceux qui étaient devant lui. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voyez un Fils mal gérer la gloire, ne le blâmez pas. Dites, ah, ça c'est l'image de son Père. J'espère que les Fils de Philadelphie montrent l'image de leur Père aussi à Philadelphie. J'espère que dans les cellules, les bergers montrent l'image de leur Père. J'espère que dans les cellules, les responsables des cellules ne sont pas la caricature du berger principal. Et qu'il n'y a rien à voir. Quand on voit dans les cellules, on dit, vous n'avez rien à voir avec ce qui est au-dessus. Le Fils, le vrai, ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il faut faire le Père. Amen. Deuxième raison qui fait que la plupart d'entre nous gérons mal la gloire, c'est l'absence des préparations. Le fait qu'on n'a pas été préparé. Et quand je parle de préparation, le terme qui me vient en esprit, c'est le fait d'être aiguisé au préalable. Et l'un des meilleurs passages qui illustre la préparation, qu'est-ce que j'aime ce passage? C'est 1 Roi chapitre 6, verset 7. Parlant de la grande maison que Salomon a eu à bâtir, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque l'on bâtit la maison de l'Éternel, on s'est servi des pierres toutes taillées. Taillées d'avance. Et j'aime ce que la Bible dit. Ni coup de marteau, ni coup de hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on en construisait. Totalement taillé et puis utilisé, préparé d'avance. C'est pour cela qu'il est bon de ne pas placer des autodidactes dans des postes, des positions. Il est bon de les préparer et puis plus tard de les amener. Et là aussi vient l'importance d'amener des fois graduellement les gens à des postes de responsabilité. Ça permet qu'ils soient rendus capables déjà. La plupart des fois, si on fait sauter les étapes à moins de la grâce de Dieu, on a difficile à gérer la préparation. C'est pourquoi laissez-vous préparer par Dieu. Laissez-vous amener petit à petit. Moi, quand je vais mon parcours dans le ministère pour que j'en arrive, là où j'en suis, si seulement je suis quelque part, j'ai presque tout fait. Moniteur de l'école du dimanche, membre du protocole, responsable de la jeunesse. Petit à petit, je vous ai parlé souvent ici, plusieurs années, pasteur adjoint, ne prêchant pas, ayant l'onction, les messages, la révélation, mais mourant avec sa révélation et ses messages. La préparation, qu'est-ce qu'elle est d'une grande importance? La préparation peut avoir plusieurs visages. Premier visage de la préparation, l'on vous parle de la gloire. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Dans le premier pas de la préparation, on vous parle de la gloire. Qu'est-ce qu'elle est? Quelles sont ses multiples facettes? Quels sont ses avantages? Et quels sont les pièges? Deuxième visage, l'on vous enseigne sur comment la gérer. Ce qu'il faut faire quand elle est là, ce qu'il faut éviter aussi quand elle est là. Troisième, l'on vous montre des exemples de personnes qui ont su bien gérer la gloire, ainsi que les conséquences qui se sont attachées à cette bonne gestion. Mais l'on vous parle aussi des personnes qui ont eu à mal gérer la gloire, ainsi que les conséquences qui ont suivi. Une bonne préparation vous permet de répondre présent au rendez-vous de la gloire. C'est-à-dire vous permet d'avoir les actions qu'il faut au moment où il faut. Pourquoi? Parce que vous avez été préalablement préparé. Et ma prière ce soir pour chacun de nous, je ne sais pas où Dieu veut nous amener, où Dieu veut nous amener, quand il veut nous amener, jusqu'à quel niveau. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, aiguise-moi. Seigneur, permets que demain, quand tu vas me donner, quel que soit le poids, que je sois rendu capable de bien gérer ça. Troisième raison qui fait que la plupart d'entre nous, quelquefois, ne gérons pas bien la gloire, c'est le fait de ne pas avoir été guéri des blessures intérieures du passé. Le fait de ne pas avoir été guéri des blessures intérieures du passé. Je me suis rendu compte, en faisant le travail pastoral, en étudiant la vie des gens, certaines personnes n'arrivent pas à bien gérer la gloire à cause des blessures intérieures. Ils ont grandi dans les complexes. Ils ont grandi dans les manques. On les écrasait. On les méprisait. Et puis voilà, Dieu fait certaines choses. Subitement, ils ont un poids social. Et parce qu'ils n'ont pas été guéris de ces choses, l'orgueil s'invite. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont aujourd'hui semble leur permettre de prendre une revanche sur ce qu'ils ont manqué. Je prie que vous puissiez guérir de vos blessures. Ma fingaga mingi na vie. Ce qu'on a eu position à Kisabango. Na kolaka na lingwanda, na ndola takabila mami balé. Nzamba na ndola ta na tongo 6 heures na changé, 9 heures na changé. 10 heures pour nous autres changer boutique en gaille. On ne s'habille pas pour couvrir, on s'habille pour prouver que guérir de ses blessures. Quand je dis qu'on n'a pas été guéri de ses blessures, il y a l'orgueil, il y a l'esprit de compétition. Mais il y a surtout comme un sentiment de revanche. Il y a des gens qui sont élevés en responsabilité de cœur blessé. Et ils veulent prendre une revanche sur la vie et sur les autres. Mais écrasant il y a comme un pasteur titulaire. Le but, ce n'est pas l'édification, le but, c'est montrer de quoi on est capable. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, au verset 15, dit quelque chose de merveilleux. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et surtout qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Que des gens qui sont blessés, qui s'ignorent, et qui montent en gloire et en responsabilité avec leurs blessures. Et parce qu'ils accèdent à ce niveau avec leurs blessures, ils n'arrivent pas à les gérer. Tu as été écrasé, tu as été méprisé, demande à Dieu de te guérir. Quatrième raison qui fait que nous gérons mal la gloire, c'est un mauvais entourage. Il arrive des fois, nous-mêmes, quelquefois, nous sommes bien préparés à gérer la gloire, mais les gens qui sont tout autour de nous, quand je parle d'entourage, je parle des époux, d'épouses, des amis, de proches, des intimes. Des gens peut-être bien préparés à gérer la gloire, mais qui ont le malheur de tomber sur un mauvais entourage. 1 Corinthiens 15, 33 dit, mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Exemple que nous retrouvons dans 1 Rois chapitre 21, 1 Rois chapitre 21, verset 4 au verset 16. On voit un homme apparemment timide, élevé en gloire et en dignité, mais on sent que ce n'est pas dans son style de vie de profiter de la position. Acab, il s'appelle. Mais il a le malheur d'avoir dans son entourage une mauvaise femme, Jézabel. Acab estime que malgré que je suis roi, je ne dois pas profiter de ma position de roi pour avoir certaines choses. Il va dans une procédure légale, il va proposer à Naboth, est-ce que je peux avoir ta vigne? Naboth dit non. Akab, puisque c'est comme ça qu'il est dans son cœur. Il ne veut pas profiter de sa position, lui il laisse. Mais il a eu le malheur d'avoir à ses côtés une mauvaise personne. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jézreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne mange point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jézreel. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ?» Roi Mobimbozolé, là. N'a pouvoir aux olé, là. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne des Naboth de Jézreel. Et vous connaissez la suite. Elle a écrit un faux témoignage. Elle a pris des faux témoins qui vous entourent. Des mauvais conseillers. Tes places, pasteur titulaire, ils reviennent. Papa, n'est-ce pas nommé, donc ce qu'il faut, quand on a dit tout, tout. Il faut que si, il faut que l'on approche. Pour familiarité, il y a des conseillers comme ça, ils vous détruisent. Donc, dès que le pasteur titulaire, shalom. Ah, bon, shalom, shalom. La familiarité tue les sacrés. Il y a un principe. Qui vous écoutez? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Qui vous écoutez? Je prie que vous ne soyez pas des mauvais conseillers qui transformez des personnes vertueuses en des monstres. Seigneur, épargne-moi de cela. Que je ne sois pas ceux qui transforment les accabres respectueux des limites des autres en des personnes qui peuvent se permettre tout. Septième principe. La Bible est remplie d'exemples des personnes qui d'un côté n'ont pas su bien gérer la gloire, mais de l'autre aussi qui ont su gérer la gloire. Et nous allons voir quelques exemples. La Bible est remplie d'exemples des personnes qui n'ont pas su gérer la gloire et d'autres, par contre, qui ont su la gérer. L'exemple que nous voyons en premier, c'est l'exemple de Lucifer. Et nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 14, Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan, quand il était l'ange qui s'occupait de la louange et de l'adoration dans la présence de Dieu. Ésaïe chapitre 14, verset 9 au verset 16. Là, il est fait mention de l'instant de sa chute. Les séjours des morts s'étonnent jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec les sons de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, ce qui nous tue le plus souvent, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, qui te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Son présent n'a rien à voir avec son passé. Deuxième exemple de quelqu'un qui n'a pas su gérer la gloire, Ozias. Ozias. 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 5, et puis versets 15 à 21. 2 Chroniques chapitre 26, qu'il est triste chaque fois que j'ai étudié la vie de ce jeune roi qui avait très bien commencé, mais qui a très mal fini. 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 5, puis versets 15 à 21. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Et vous savez ce que le verset 5 dit? Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et pendant les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Simplement parce qu'il s'est appliqué à rechercher Dieu. Mais écoutez le verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, destinées à être placées sur les tours, sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu par l'Éternel jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais quel brusque changement avec le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Que deviendras-tu quand Dieu fera de toi un puissant? Son cœur s'éleva pour le perdre. Une autre version dit, son cœur se gonfla pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Il s'est permis quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Il a usurpé les pouvoirs sacerdotaux alors que lui n'avait que le pouvoir politique. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, tu n'as pas les droits, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Écoutez sa réaction au verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Qu'est-ce que les gens peuvent chanter? L'aspect le plus triste, la lèpre, non seulement les frappe, mais la Bible continue en disant au verset 20, le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors. Lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Waouh, verset 21, quelle tristesse. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Quelle triste fin pour quelqu'un qui avait bien commencé. Chaque fois que j'enseigne sur ces passages, je dis dans ma vie, je ne veux pas de la sagesse tardive. Que des Ozias qui comprennent des choses, mais quand ils deviennent lépreux. Il y a une sagesse qu'on acquiert tardivement qui ne vous sert à rien. Mon père me disait, l'une des phrases les plus tristes à ne pas prononcer sur le chemin de la vie, c'est « si j'avais su ». Si j'avais su. Quand tu dis « si j'avais su », tu es déjà marqué dans ton corps par les conséquences de tes actes négatifs. Ozias, qui a bien commencé, qui a très mal fini. On va aussi voir un exemple que nous connaissons, Salomon. 1 Roi chapitre 4, verset 29 à 34, nous parle de ses débuts et tout ce que Dieu a fait en sa faveur. 1 Roi chapitre 4. Verset 29, verset 24, quand on essaie de lire la vie de Salomon, on a tendance à dire la faute de Dieu, c'est de l'avoir béni. La faute de Dieu, c'est de lui avoir donné. Chapitre 4, verset 29, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme les sables qui sont au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Plus que Éton, l'Exacrite, plus que Éman, Calcol et Darda, on cite les hommes les plus sages de l'époque, les fils de Makol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, il a composé 1500 cantiques, il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à les obstins, c'est une forme d'encyclopédie vivante. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Et écoutez le verset 34. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Là, ce n'est qu'une partie de ce qu'il était. Allons-y au chapitre 10 de 1 Roi. 1 Roi 10, 23 à 25. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. par les richesses et par la sagesse. Waouh, écoutez le verset 24. Et tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Carnet des rendez-vous rempli. Chaque jour, des gens affluaient de partout. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et le verset 25 dit, et chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Glorieux, pesant. 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 3, nous parle de la déviation. Non, c'est bien ça, c'est que moi j'ai lu en main, que j'ai une autre Bible. 1 Roi 4, 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. C'est bon, n'est-ce pas? Ok. Et alors, je lisais 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Combien de fois les gens ont difficile à gérer la gloire. La meilleure manière de démontrer sa déchéance nous a encore montré dans Ecclésiaste au chapitre 2. Chapitre 2, verset 10. Il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Waouh. Tout ce que j'ai désiré. Comment tu gères la gloire? Exode, plutôt, Actes des Apôtres, chapitre 12. Je voulais tellement déjà parler d'Hérode. Actes des Apôtres, chapitre 12. On nous parle aussi de quelqu'un qui a su très mal gérer la gloire. Et là, la plupart d'entre nous vont se retrouver pour dire quelquefois, nous ne pouvons pas forcément conditionner les autres dans leur manière d'apprécier ce que nous faisons, dans leur manière de mettre des commentaires. Mais le grand problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce qu'ils disent? Qu'est-ce que nous faisons? Il y a des gens qui vivent de cela comme une nourriture qu'ils recherchent. Et si d'aventure cette nourriture n'est pas là, ils doivent provoquer qu'elle soit là. Acte 12. Verset 21 au verset 23. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, harangua la foule publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, écoutez la raison, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. C'est comme s'il encourageait cela. Quand on disait, ça c'est pas la voix d'un homme, la voix d'un Dieu, dites-le encore. Vous en avez raison. Comment tu gères la gloire? Mais nous allons voir un deuxième groupe de gens qui ont su très bien gérer la gloire. Qui ont su très bien gérer la gloire. Nous avons lu tout à l'heure Job au chapitre 1er au verset 3, on nous parle du poids social que Job avait attaché à tout ce qu'il avait comme richesse et comme avoir. Autant de biens, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Et la Bible dit, cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Mais allez-y avec moi dans Job chapitre 29, on va lire plusieurs portions. Versets 7 à 11, et puis 21 à 23. Pour vous donner une idée de ce qu'était le poids social de Job quand il était au summum de sa gloire. Job chapitre 29, versets 7 à 11, et puis versets 21 à 23. C'est lui-même qui relate cet épisode de sa vie. Écoutez ce que Job dit. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, je me faisais préparer un siège dans la place. Vu son poids. Il dit, moi, je n'étais pas les gens qui faisaient des réservations. Quand j'arrive à une manifestation, des bandades, déjà, Job, je me faisais préparer un siège dans la place. Verset 8, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les jeunes gens, quand ils me voyaient, se retiraient. Job. Pasteur Olivier, voilà. Les vieillards se levaient, se tenaient debout. Verset 9, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Quand il dit mettez la main sur leur bouche, je vous l'ai dit, ils ont vu quelqu'un d'important. Mettez la main à la bouche. Pourquoi? À cause du poids qu'il avait. Il ajoute au verset 10, la voix des chefs s'est taisée et leur langue s'attachait à leur palais. Pourquoi? À cause du poids qu'il avait, les gens n'osaient plus parler. Tout le monde commençait à murmurer. Et écoutez ce qu'il dit au verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. On rendait témoignage. Pasteur Dalo, awangai. Comment rester la même personne quand les gens vous donnent une telle valeur? Celui qui vous voit rend témoignage. Celui qui vous compte, il a l'impression qu'il a vu un ange. Mais écoutez ce qu'il ajoute au verset 21. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Verset 22. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Verset 23. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Donc, si Job était de l'époque, on l'appellerait Job solution. Bissika, il y a un problème, et ça, il est moins. Il dit, on comptait sur moi comme on compte sur la pluie. L'original dit, comme on compte sur la pluie dans un lieu désert. Imagine la valeur que tu as. Moutoubolou kaka, yeyo, ya Job, aïe. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Comment rester la même personne quand les gens vous donnent un tel poids social? Mais malgré cela, écoutez ce que Job 2, verset 2 à 3 dit. Seigneur, donne-nous des gens qui peuvent être comme ça et rester simples. Job 2, verset 2 à 3. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. J'allais dire, malgré toutes ces choses que j'ai mentionnées. Craignant Dieu et se détournant du mal, malgré toutes ces choses. Certains pensent que pour être spirituel, il faut manquer. Mais Job avait beaucoup, mais il a suggéré. Allons plus loin encore, Job chapitre 31, verset 1. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux que je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Il voulait dire quoi? Je serai fidèle à ma femme. Que des gens dont la fidélité est liée à l'absence des billets des banques en poche. Attaché à la seule femme à cause d'un piaka. Si Dieu donne un peu, vous verrez. Lundi, prédote na masina. Mercredi, prédote nangaba. Autant Salomon a eu beaucoup, il a mal dépensé. Autant Job a eu beaucoup, il a suggéré cela. J'aimerais dire, il est possible de gérer la gloire. Il est possible d'avoir beaucoup et de conserver. Quelqu'un a dit, la gloire a tendance à chasser les vertus dans la vie des gens. Mais je pense que la gloire aussi peut inviter les vertus. Il est possible d'être élevé et simple. Il est possible d'être élevé et de garder certaines vertus. C'est difficile, certes, mais ce n'est pas impossible. Pourvu que nous puissions désirer ces choses. Quelqu'un croit en cela? La Bible nous parle aussi des apôtres qui ont su très bien gérer la gloire. Les apôtres ont su très bien gérer la gloire. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 14 à 15, nous parle de Pierre qui est devenu glorieux. Son ombre commence à guérir. Il n'impose pas les mains. Il guérit les gens inconsciemment. Lui, pas simplement son ombre, fait des effets thérapeutiques. Et les gens témoignent. Quand lui passe, il dit, non, je n'ai pas besoin d'imposition des mains. Son ombre va... Et les gens commencent à témoigner. Vous savez, tel jour, j'étais en train de... Pierre est simplement passé son ombre. Alléluia, et tu entends parler de ça. Pierre était assis à tel endroit. Quand il s'est levé, je me suis assis et je suis guéri. C'est merveilleux, cet homme est un homme de Dieu. Que ce n'est pas facile de rester la même personne. Que ce n'est pas facile de rester la même personne comme Actes 9, 35 à 33 nous parle comment... Pierre arrive dans cette ville et il guérit un paralytique de naissance appelé Aîné. Il avait dit, toute la ville s'est convertie. Acte 9, 33, 35. Et puis 40 à 42, quand on parle de la guérison de Dorcas, plutôt la résurrection de Dorcas, Tabitha. Comment rester la même personne quand on vit des choses comme ça. Acte 9, 33 à 35. Là, il s'agit de Ainé à Lyde. Et puis 40 à 42, la résurrection de Dorcas à Tabitha. L'apôtre Paul aussi a su très bien gérer la gloire. Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 11, jusqu'au verset 13e. Acte 19, verset 11 au verset 13. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. J'ai chaque fois difficile à lier ces deux mots. Les miracles sont déjà des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais on dit des miracles extraordinaires par la main de Paul. Au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Tellement de l'impact que les gens commencent à les copier. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sous ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. » Il voulait dire « Nzambe na Paul. » Que faire quand les gens commencent à te citer comme référence attachée à Dieu? Ce n'est pas évident. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 6 à 8, nous parle aussi d'un diacre qui a su très bien gérer la gloire. Philippe, il s'appelait. Actes 8. Versets 6 à 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Que faire quand ces choses ne se passent? Mais nous voyons Philippe qui reste la même personne. Huitième principe, la gloire, conséquence de l'attachement à Dieu, mal géré, peut devenir la cause de l'éloignement de son auteur vis-à-vis de nous. J'aimerais le répéter. La gloire, conséquence de l'attachement à Dieu, mal géré, peut devenir la cause de l'éloignement de son auteur vis-à-vis de nous et même de l'éloignement de celle-ci. Je le répète pour la troisième fois. La gloire, conséquence de l'attachement à Dieu mal géré, peut devenir la cause de l'éloignement de son auteur vis-à-vis de nous et même de l'éloignement de celle-ci. Je l'ai dit, la gloire s'invite simplement quand nous craignons Dieu, nous sommes attachés et Dieu, comme récompense, il nous donne ses rayonnements, il nous donne cet ornement, il nous donne ses poids, mais il regarde comment nous gérons. Quand nous gérons mal, lui l'auteur se retire. Et quand lui, l'auteur, se retire, ce qu'il a amené aussi finit par se retirer. Comment je gère la gloire et comment tu gères la gloire? Souvent, nous désirons la voir, mais est-ce que nous sommes suffisamment préparés pour la gérer? La première fois, j'ai eu à lire ce passage de Deutéronome, chapitre 8, versets 10 à 14, et puis 17 à 20, j'ai essayé de me mettre à la place des enfants d'Israël. J'ai dit, si j'étais à leur place et que Dieu me parlait ainsi, je dirais, Dieu, tu me déçois. Deutéronome chapitre 8, 10 à 14 et 17 à 20. La première fois, comme je disais, j'ai lu ça, j'ai essayé de me représenter la scène. Israël n'est pas encore entré dans la terre promise. Sa condition sociale va changer. Sa condition matérielle va changer. Simplement pour dire, ils vont devenir glorieux. Et avant de leur donner la gloire, Dieu montre déjà tout ce qu'il y a comme piège attaché à la gloire. Écoutez ce qu'il dit. On va lire et puis je terminerai cette réflexion. Deutéronome au chapitre 8, verset 10 d'abord à 14. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Et puis se met à mettre en garde. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je t'ai prescrit aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Écoute au verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle au point que tu m'oublies. J'ai dit, j'aurais été à la place des enfants d'Israël. Dieu ferait de telles remarques. Je donnerais des coups par terre. Quand Dieu aura fini, il dit, Roland, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, Nzambo, Pessinga, Moté, ma passe. Donc tu soupçonnes que moi je peux t'oublier. Dieu connaît la capacité qu'a la gloire à corrompre. Il sait comment quand nos conditions changent beaucoup de choses. Garde-toi de m'oublier. Ah Seigneur, Seigneur, ma passe. Donc vous soupçonnez que Dieu connaît ce que la gloire peut faire. Dieu connaît combien ça peut gonfler le cœur. Il dit, garde-toi de m'oublier. Garde-toi. Il continue au verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il veut dire que tu peux arriver à ça. Tu peux, ça peut t'arriver de m'oublier comme source. De te mettre toi-même comme source. Ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses. Et il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces choses. Ouais, mon verset 19 dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Le même qui bénit, il promet aussi d'amener l'amour. Seigneur, rends-moi capable de bien gérer la gloire et la conséquence de mon attachement vis-à-vis de toi. Mais quand tu gères mal, tu te retires de moi. Triste, tu seras donné. Il y aura un poids social qui sera donné. Ma prière est que Dieu nous aide. Dans Proverbes chapitre 18, au verset 12. Proverbes chapitre 18, au verset 12 à la fin, le sage dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quand vous voyez l'humilité, c'est faire voir. Soyez sûr d'une chose, qu'après, qu'est-ce qui va arriver? La gloire. Il avait dit, elle précède. Proverbe 15, verset 33, dit la même chose. L'humilité précède la gloire. Quand vous voyez l'humilité arriver, sans être prophète, vous savez qu'après, quelqu'un d'autre va s'annoncer, c'est la gloire. L'ornement, le poids. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes qui travaillons pour que l'humilité soit notre partage. Et quand l'humilité est notre partage, la gloire de Dieu s'invite et la gloire de Dieu apporte toutes sortes de choses dont nous avons besoin. Le Proverbe 18, verset 12, la version française courante dit, avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Waouh. La version parole de vie dit ceci, pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Et ce soir, en terminant, j'aimerais mentionner un certain nombre de choses, j'en ai retenu. Il y en a plusieurs, il y en a six, en rapport avec l'humilité, qui chaque fois qu'elle s'invite quelque part, annonce que la gloire va s'inviter. La première chose en rapport avec l'humilité, c'est qu'avant d'être une réalité externe, elle est d'abord une réalité interne. Avant d'être une réalité externe, elle est d'abord une réalité interne. Proverbe 29, au verset 23, parle de ceux qui ont l'esprit humble. Une autre version dit, ils ont l'humilité dans leur esprit. Avant d'être une réalité extérieure, l'humilité est d'abord une réalité intérieure. Si on l'a à l'intérieur, la vraie, elle finira par se manifester aussi à l'extérieur. Deuxième chose que je voudrais que vous puissiez retenir avec moi, c'est qu'il est possible d'avoir une fausse humilité. Il est possible d'avoir une fausse humilité. Qu'est-ce que j'appelle fausse humilité? Je parle de là où il y a une présence extérieure, mais qui ne tire pas sa racine à l'intérieur. C'est cosmétique. C'est superficiel. Ça ne tient qu'à moi. J'aime pas trop les gens qui se présentent eux-mêmes, votre humble serviteur. Laisse-nous te dire que tu es humble. Dis votre serviteur, nous-mêmes nous dirons il est humble. Il est possible d'avoir une fausse humilité, celle qui est plus extérieure, mais qui ne tire pas sa racine à l'intérieur. Dans Colossiens chapitre 2, verset 18, l'apôtre parle des personnes qui ne sont pas humbles, mais qui ont l'apparence de l'humilité. Il y a des gens qui aiment même fabriquer une humilité qui se plaît à être louée. Moi, j'appelle ça une humilité orgueilleuse. C'est une fausse humilité qui cache l'orgueil, qui veut être louée. Plaise à Dieu qu'elle soit vraie. Plaise à Dieu que ce que l'on voit à l'extérieur tire sa source réellement à l'intérieur. Je parlais de Colossiens 2, 18. L'apôtre dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Il parle d'apparence. Pourquoi? Parce que la réalité est absente. La version française courante parle de ceux qui prennent plaisir à des pratiques extérieures de l'humilité. Certes, il y a l'extérieur, mais l'extérieur tire sa force de l'intérieur. Troisième chose, la vraie humilité est un choix. La vraie humilité est un choix. Un choix, il y a deux caractéristiques, réfléchies et volontaires. La vraie humilité est un choix. Un choix ayant deux caractéristiques, réfléchies et volontaires. Ce merveilleux passage de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, nous permet de bien comprendre cela. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 8. Ayons en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et j'aime le verset 7. Il s'est dépouillé. On ne l'a pas dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ça a été un choix. Mais le verset 8 va plus loin. Il s'est humilié. On ne l'a pas humilié. Ça a été un choix. Je veux avoir tel caractère. Je veux avoir tel style de vie. 1 Pierre chapitre 1er, chapitre 5 plutôt, verset 5. Il avait dit, revêtez-vous de l'humilité. Revêtez-vous d'humilité. On ne subit pas l'humilité. Elle tire certes sa force de notre relation avec Dieu, mais c'est un choix. 1 Pierre 5, au verset 5. Mais merveilleux passage encore, Matthieu chapitre 18, au verset 4. Matthieu, chapitre 18, verset 4. Jésus-Christ qui parle, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ses petits enfants sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Il dit, il va devenir lui-même. Il dit, il se rendra. C'est un choix. Quiconque se rendra humble comme ses petits. C'est un choix. Ce n'est pas quelque chose que nous subissons. Quatrième chose, conserver l'humilité n'est pas une chose facile. Conserver l'humilité n'est pas une chose facile. Et il faut deux exercices permanents et constants pour cela. Conserver l'humilité n'est pas une chose facile. Il faut deux exercices permanents et constants pour cela. Premier exercice, travailler son homme intérieur. Travailler son homme intérieur. Travailler son homme intérieur. Et Romains 12, au verset 16, l'apôtre dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer. Que votre attraction aille vers ces choses. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est-à-dire, travaillez votre homme intérieur. Deuxième exercice, s'examiner régulièrement. Dans mes notes, j'ai écrit, s'examiner régulièrement, et puis j'ai mis entre parenthèses, sans complaisance. S'examiner régulièrement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Combien il est bon de s'arrêter soi-même. Combien il est bon, vous entendez les gens dire des choses, mais vous prenez ce que les gens disent et vous regardez soi-même. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. La version Taub dit même, faites vous-même votre autocritique. Cinquième chose, associez à la crainte de Dieu, l'humilité produit des fruits merveilleux. Associez à la crainte de Dieu, l'humilité produit des fruits merveilleux. J'ai 50 ans de vie, 29 ans et demi dans le Seigneur. De 26 ans dans le ministère, j'ai vu ces choses. Proverbe 22, verset 4 dit, les fruits de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et quand le sage parle comme ça, il parle d'un vécu. Proverbe 22, 4 dit, les fruits de l'humilité associés avec la crainte de Dieu, dit 1, c'est la richesse, 2, la gloire et 3, la vie. Et je parlais de comme principe associé à la crainte de Dieu, l'humilité produit des fruits merveilleux. La version française courante dit, l'homme humble se soumet au Seigneur et il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. C'est une récompense que Dieu lui donne. La version parole de vie dit ceci: celui qui se reconnaît petit respecte le Seigneur et ainsi il devient riche, honoré et vit longuement. Sixième et toute dernière chose ce soir, c'est qu'il y a un traitement spécial que Dieu accorde à ceux qui manquent d'humilité. Je vous prie d'éviter ce traitement spécial. Il y a un traitement spécial que Dieu accorde à ceux qui manquent d'humilité. Première épître de Pierre, chapitre 5, le verset 5, la partie B. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu est un opposant à radical des orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu fera partie de ton opposition radicale. Il fera des marches contre toi. Il résiste aux orgueilleux. Mais aux humbles, la Bible dit, il fait grâce. La version française courante dit, Dieu s'oppose farouchement aux orgueilleux, mais il traite avec bonté les humbles. La gloire a commencé à s'inviter, s'invite ou va s'inviter demain. Comment tu vas gérer ça? Comment tu gères ça déjà? Tous ces jours, je prie que Dieu fasse que la gloire s'invite dans votre vie, dans votre ministère, dans vos affaires, dans tout ce que vous faites comme travail. Mais le plus important n'est pas la présence de cette chose. Le plus important, c'est comment nous gérons. Je prie que ce soir, nous puissions baisser nos têtes et nous tenir simplement la main dans la main.
Je suis touché.